dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois d'août 2007, selon Ivan Maffedini.
Chacun a ses marottes, surtout ceux qui ne le savent pas. Il y a ceux qui se vantent de ne pas en avoir, d'autres d'en avoir de si mignonnes ou de si personnelles. J'en ai des dizaines, et comme la forme de mon nez et de mes épaules, ou la grosseur de mes orteils et de mes génitoires, elles font que, par moments, je suis ce que je suis, et dans d'autres, ce que je ne suis pas. Je vais essayer de parler du mois d'août 2007 en partant de l'une de mes manies, ou passion, ou amour, je ne sais pas très bien comment la définir, pour les détails. J'aime passionnément les détails, que j'oppose parfois même obtusément, je l'admets, aux nuances. Découvrir que le détail contient le monde a été la révélation de ma vie. Cela m'a permis d'abandonner les grandes théories pour observer les petites choses, toucher les idées, dépouiller les objets et les événements. Depuis, j'appelle mon frère tous ceux qui se nourrissent de détails, ma sœur toutes celles qui vivent pour les détails. Cette découverte date d'il y a bien longtemps, mais je n'avais pas vu l'énorme piège qu'elle préparait. L'impulsion a théorisé sur tout, a tué le détail dans l'œuf pour en faire une grande théorie, comme un bon intellectuel médiocre, a entré dans les nuances. Les nuances et les détails sont pour moi comme le diable et l'eau bénite, comme on disait autrefois, ou comme Royal et Sarkozy, comme on dit aujourd'hui en France. Ce qui est certain, c'est que les gens qui disent apprécier les nuances m'emmerdent. Les nuancés me font chier à cause de leur incapacité à comprendre que les nuances les emprisonnent dans un détail, qu'ils sont incapables de voir à cause de leur intelligence obtuse, mécanique, grise, proustienne. À cause d'une intelligence prisonnière de ce qui a déjà été vu. Ce n'est pas leur faute, c'est leur tare. Vieilles araignées tricoteuses, ils bavent leur vanité pour que l'on puisse admirer la délicatesse de leur toile, ou la proie naïve que le ciel leur a envoyée perd son âme. Je dois ajouter que parmi mes manies, j'en ai une qui est cousine germaine de celle-ci. Je suis maniaque des dates. Ce qui tombe bien quand on vous demande de parler de moi. Mais, en même temps, un mois c'est trop gros, trop complexe, trop plein de contradictions. Un peu comme un mois sans S. Un mois, ce n'est pas un vrai détail, ni du point de vue de l'histoire du monde, ni de mon histoire personnelle, ni sans doute de la vôtre. Au mois de juillet, j'avais décidé que pour parler du mois d'août, j'aurais choisi une dizaine de jours en fonction des événements dont parlaient les quotidiens québécois et que j'aurais tricoté quelque chose en partant d'un détail quelconque. Au début, cela me sembla une bonne idée, mais après quelques heures, je trouvais qu'il y avait quelque chose de dérangeant, quelque chose de vraiment trop facile. J'étais en difficulté. Et comme toujours, quand je me noie dans une idée, ou encore, quand je n'ai pas la moindre idée de comment avoir une idée, je fais appel à Iketnouk, un très cher ami inuit, qui vit à Pond Inlet, un petit village à l'extrême nord de la terre de Baffin. Je lui ai envoyé un courriel en lui expliquant ce que j'avais l'intention de faire. La réponse arriva après 10 minutes. La voici. Il est difficile de trouver une idée plus banale. Tous les jours, on peut écouter des commentateurs qui nous emmerdent avec leurs commentaires sur les événements du jour. Des commentateurs qui sont payés pour essayer de créer des événements en proférant des âneries sur la bêtise humaine. Et puis, ça fait 6 ans que tu n'oublies plus le quotidien québécois. Veux-tu reprendre cette corvée qui t'a gâché au moins 14 000 débuts de journée en 20 ans? Vu que tu aimes tellement les dates, pourquoi ne laisses-tu pas tomber la contrainte de l'année? Le mois d'août, c'est le mois d'août. Écoute, dès que le comité pour la défense de la culture des hommes du Nord me laissera un peu de temps, je vais t'écrire plus longuement. Salut, vieux con. Comme d'habitude, il a été très clair. Sans nuance. Ça doit être pour cela que je l'aime tellement. J'ai décidé donc d'attendre le mois d'août et de commencer par acheter le devoir. Catastrophique. Un détail. L'article d'un dénommé Cornelier sur le clivage gauche-droite aurait fait pleurer même Marcel Marceau. J'eus l'impression que le 1er août 2007 suivait le 2 septembre 2001, date à laquelle j'avais arrêté de le lire. 2159 jours annulés. Perdus. 100 ans. J'ai trouvé le même style, les mêmes débats, le même tout. Pendant un court instant, je me suis dit que j'aurais aimé être journaliste au devoir. Quelle chance! Le temps abolit, comme aurait dit mon ami Thierry. Comme dans ma jeunesse, le neuron toujours si agile, le sexe toujours si près, les sentiments toujours si frais. Ce ne fut qu'un très court instant. Car il fut chassé par les 10 jours supprimés en 1582 lors du passage au calendrier grégorien. Dans les pays catholiques, le 4 octobre fut suivi par le 15 octobre en l'année 1582. Dans les pays protestants, ce fut plus tard. Comme quoi les papistes, parfois, sont plus branchés science que les protestants héros de la modernité. Ne parlons pas de la Russie orthodoxe, qui a dû attendre la terrible révolution d'octobre pour faire la petite révolution papale. 4 octobre, 15 octobre, c'est-à-dire de la fête de Saint François d'Assise à celle de Nietzsche, qui ne naîtra que 360 ans plus tard, mais dont l'arrivée, Dieu, dans son omniscience, avait prévu depuis au moins l'arrivée sur Terre d'Ève et de son compagnon de conneries. J'ai dû donner raison à mon ami Katnouk. Et j'ai renoncé à suivre le mois d'août dans les journaux pour le suivre à travers les années. Pas vraiment le mois d'août, mais les jours, quelques jours du mois d'août. J'aurais pris des fils symboliques, et j'aurais enfilé des jours à travers les siècles pour créer des colliers de perles historiques, des détails précieux l'un à côté de l'autre, pour le coup de Radio Spirale. Oui, j'aurais renoncé à la solution de continuité temporelle pour une continuité virtuelle ou idéale, selon 5 août 1962, 5 août 1906, 5 août 1400, etc. Pourquoi le 5 août? Parce que j'ai commencé mon travail de bijoutier le 5 août. Pourquoi le 5 août 1962? Parce que c'est le jour de l'emprisonnement de Mandela et, surtout, de la mort de Marilyn Monroe. deux perles précieuses pour certains, sans doute de simples boules de verre pour d'autres. Mais je ne veux surtout pas créer des colliers que tout le monde apprécie. Quand même, si après le 5 août 1962, j'enfile le 5 août 1906, on a déjà un début de collier qui pourrait avoir un certain charme, si on pense que John Huston naquit le 5 août 1906 et qu'il est le réalisateur du dernier film terminé par Marilyn Monroe, The Misfits. Le suicide de l'actrice le jour anniversaire du réalisateur. Est-ce un hasard? Peut-être. N'empêche que le hasard fait souvent très bien les choses. Il fallait commencer par choisir le premier jour pour mes colliers. 5 août? Oui, c'est bien. 6? Ah non. Celui-là, non. Je devrais commencer par Hiroshima. 12? Fantastique. C'est du charme qui est prêt. 15? Voilà l'arrivée de Napoléon. 25? C'est Nietzsche qui se retire définitivement. 27? Hegel envahit le monde. 28. Goethe commence son récit du voyage, Tolstoï son journal. Mais pas seulement des personnes célèbres. Pourquoi pas des amis? Pourquoi pas les personnes que j'aime? Voyons. 7 août, Thierry qui est parti. 11 août, mise au monde de la femme dont se repaît Olga. 21, c'est mon père. Ben, pas seulement les amis, les pères aussi. 28, Alexandre aux aisselles rasées. Aidé par l'inlassable Internet, j'avais commencé à enfiler mes premières perles quand j'ai reçu un courriel d'Iketnouk avec deux seuls mots. Massa candida. Cela ne me disait rien. J'enfourche Google et je me retrouve en Suisse. Le 24 août, bien sûr. Donc, 24 août, à Carthage, 300 martyrs sont jetés dans un puits rempli de chaux où ils se transforment en une masse blanche. Massa candida, comme on dit en latin. C'était à peu près aux alentours du 300 après Jésus-Christ. C'est saint Augustin qui en parle quand il écrit qu'ils furent tués parce qu'ils avaient refusé de brûler de l'encens à Jupiter. Je compris où Iketnouk voulait que j'aille. Il voulait que je m'en aille sur le terrain glissant de la religion. Allons-y, j'ai toujours aimé la luge. Commençons par les pentes catholiques. Pas très loin de la Massa Candida, il y a Saint-Tatien, décapité en 304 sur ordre de Dioclétien. Dioclétien. Dioclétien le terrible, le monstre, ou bien le grand homme d'État, ou les deux. Je me permets un court dérapage de cet inconnu de Saint-Tatien à la célèbre Sainte Agnès, tuée elle aussi pendant le règne de Dioclétien en 304. Vous ne connaissez pas les détails de la mort de Sainte Agnès? Ben, ce n'est pas important. Écoutez, j'ai préparé un enregistrement sur une cassette. C'est un enregistrement assez bruyant, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Écoutez comment Sainte Agnès termine sa vie.
À l'âge de 12 ans, Agnès rejeta les avances du préfet de Rome, qui la courtisait avec empressement, lui déclarant qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un de bien plus noble que lui. Le jeune homme tomba malade d'amour. Lorsque son père en connut la raison, il convoqua Agnès, qui lui confia qu'elle était chrétienne et promise à Jésus-Christ. Le préfet lui ordonna alors de sacrifier aux dieux romains, sous peine d'être enfermé dans un lupanar. Refusant de lui céder, Agnès fut dépouillée de ses vêtements et conduite nue à travers la ville, jusqu'au lieu de prostitution, mais ses cheveux se mirent à pousser miraculeusement, recouvrant entièrement son corps. Arrivé dans le lupanar, un ange apparut et l'enveloppa d'une lumière éblouissante. Et le lupanar devint un lieu de prière. Alors le fils du préfet lui rendit visite, bien décidé à la conquérir. Mais un démon l'étrangla et il mourut sur le champ. Fou de colère, le préfet ordonna qu'Agnès soit brûlée en place publique comme une sorcière. Mais le feu épargna la jeune fille et détruisit ses bourreaux. Finalement, Agnès fut égorgée.
C'est quand même étrange que dans un texte comme celui-là, on parle de sorcière. Une mauvaise traduction, je ne sais pas. Mais je ne croyais pas, personnellement, qu'à l'époque de Dioclétien, on parlait déjà de sorcière. Cette histoire me semble ridicule et tragique en même temps. Elle est ridicule à cause de ces sorcières qui, en 300 après Jésus, étaient loin d'arriver. Elle est ridicule pour cet ange, pour ses cheveux très longs. Mais peut-être qu'elle est surtout tragique. Elle est tragique parce que pendant des siècles, l'Église a proposé à des petites filles cette petite morveuse, exaltée, dogmatique, hystérique, sectaire, comme un modèle. Vous me direz que maintenant, les journaux, la télévision, le cinéma proposent des modèles qui ne sont pas meilleurs. Je ne sais pas. Mais au fond de moi-même, je crois que le modèle de Britney Spears est bien meilleur que celui de Sainte Agnès. Pourquoi? Parce que dans un cas, il y a une haine pour le corps, une haine pour la vie qui me fait peur. Dans l'autre, il y a un petit peu de bêtise, un petit peu de facilité, mais ça, avec ça, on peut vivre et on doit vivre. Mais ce qui me fait penser l'histoire de Sainte Agnès, c'est aussi à Dioclétien, cet empereur que, quand j'étais à la petite école, au lycée, je ne me rappelle plus, on me décrivait comme un monstre de méchanceté, un être irraisonnable, assoiffé de pouvoir, assoiffé de sang, et que maintenant je vois plus comme un homme politique, sérieux, un homme qui quelque part voyait que religion et État pouvaient quand même être séparés. J'ai l'impression que ce Dioclétien avait devant lui Sainte Agnès, il lui aurait dit quelque chose du genre « Écoute, ma petite, ça te coûte combien de brûler un petit peu d'encens à Jupiter? Tu peux garder tes idées, je m'en fous. Ton Dieu, tu peux le garder en toi, mais respecte les règles de Rome. » Je ne sais pas. Peut-être que ce n'était pas comme ça. Mais j'aime penser qu'il y a à peu près 1700 ans, au fond, on avait à peu près le même débat qu'on a actuellement. Mais la solution à cette époque-là était claire. Une petite secte judéo-chrétienne a détruit l'Empire romain. J'ai l'impression que de 300 jusqu'à peu près 1572, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser, surtout parce que je m'intéresse au 24 août. Donc, je passe au 24 août 1572. J'imagine que à peu près tout le monde sait que c'était la Saint-Barthélemy, cette fête dans laquelle il y a eu le terrible massacre des Huguenots. Quelques mots aussi sur la Saint-Barthélemy, parce que peut-être on l'a oublié, disons, la situation politique, on pourrait la résumer d'une façon un petit peu simpliste en ceci. On a Philippe II d'Espagne, qui est un petit peu le Bush de l'époque, qui domine, il est l'héritier de Charles Quint. On a Élisabeth d'Angleterre, qui est en train de créer une puissance et qui a des capacités politiques insoupçonnées. Et il y a Catherine de Médicis, qui ressemble beaucoup à Élisabeth d'Angleterre, avec une différence qu'elle est mère, en plus que femme d'État. Elle est mère de trois rois, de François II, de Charles IX, d'Henri III. Elle est aussi mère de Margot, de la femme de Henri IV. Qu'est-ce qui se passe le 24 août 1572 ? Il y a quelque chose qui se passe que peut-être personne n'avait prévu, même pas Catherine de Médicis. Quelque chose que j'imagine que c'est Dieu qui l'a voulu. Si on recule de 2 jours, 22 août, Coligny, l'amiral, le chef des Huguenots, rentre chez lui. Il y a quelqu'un qui tire un coup d'arquebuse sur lui, mais au moment même dans lequel le projectile devrait les projectiles devraient le frapper au cœur, il se baisse pour cracher ou pour toucher ses souliers et il est seulement blessé à la main. Donc Coligny ne meurt pas et Coligny menace de se venger. 2 jours terribles à Paris. Il y a des milliers d'Huguenots qui sont là pour le mariage d'Henri IV et de Marguerite, la fille de Catherine de Médicis. Il y a la populace, ce qu'on appelle la populace parisienne, qui a hâte de prendre tout ce qu'elle peut prendre à ces hommes riches, non seulement en culture, mais aussi en argent, des bourgeois, des commerçants. Il y a les Guises, la noblesse intégriste catholique qui aimerait en finir avec les Huguenots. Disons, il y a une situation confuse, politiquement instable. Eh bien, la religion, selon certains, est employée à ce moment-là pour des fins politiques par Catherine de Médicis et les Guises. Et donc, on déclenche le 24 une tuerie de milliers de Huguenots pour laver la France de la honte de l'hérésie. La religion, donc, comme un moyen politique, c'est un peu un lieu commun. Quand on défend la religion, n'importe quelle religion, devant certaines atrocités, on dit toujours, mais elle a été employée pour des... Je crois que là, c'est un lieu commun terriblement dangereux. La religion n'est pas un moyen. La religion n'est pas employée. La religion est inscrite dans la culture, dans le langage, j'oserais presque dire, dans les corps, dans les coutumes des gens. Donc, elle ne peut pas être employée par le politique. Elle crée elle-même le politique. Mais je suis en train de penser, imaginez un instant que en 1572, au lieu qu'avoir des religions monothéistes, on était encore dans le polythéisme. On était, comme en Grèce, disons, en 300 avant Jésus. Qu'est-ce qu'il y aurait eu de différent ? Mais sans doute que Catherine de Médicis aurait eu quelque part Minerve ou Athéna qui l'aidait, Élisabeth d'Angleterre, Junon, Philippe II aurait eu Jupiter, et dans les cieux, il y aurait eu une lutte entre ces dieux-là pour sauver ou ne pas sauver le héros. C'est vrai que le peuple aurait compté très peu. Mais disons, on aurait une espèce d'image dans les cieux de la lutte politique qui se passait sur Terre. C'est comme si on avait fait une délégation, on avait délégué les dieux des cieux à gérer le sort du monde. Au fond, une démocratie dans laquelle on ne lit pas Dumont ou... On m'échappe d'autres noms maintenant, je suis pris par... je suis dans le 16e siècle, donc je suis un petit peu loin du monde d'aujourd'hui, mais disons, on peut imaginer n'importe quel député, quand on va les lire, ils nous représentent, souvent ils nous représentent très mal, la démocratie représentative est souvent en crise. Eh bien, je crois que la démocratie représentative dans la religion polythéiste est peut-être... ce qui est vraiment intéressant, ce qui nous libère du poids d'être dans une espèce de justice absolue, et le sait que les forces du bien et du mal luttent entre elles par-dessus nos têtes. dans la transcendance, comme diraient certains. Attention, une drôle de transcendance, parce que, au fond, Jupiter et Junon peuvent très bien descendre sur cette terre et se mêler avec nos pauvres humains. Le massacre de la Saint-Barthélemy a mis en effet en évidence la méchanceté des catholiques. Naturellement, on pourrait dire c'est des franges extrémistes, des intégristes catholiques. Mais je crois qu'il y avait tout là-dedans. Il y avait des extrémistes comme les Guises, il y avait Catherine de Médicis qui avait tout excepté les caractéristiques d'un extrémiste. Il y avait le peuple, il y avait des riches, il y avait des bourgeois. Tout le monde a participé à ce massacre-là. Il est dur d'être favorable ou de trouver des éléments positifs là-dedans. Mais en même temps, il est dur de trouver des éléments positifs de l'autre côté ici. En effet, si je me laisse aller à mes sympathies personnelles, quand je regarde le comportement de Coligny ou de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, les deux peut-être représentants les plus importants des Huguenots, je n'ai aucune sympathie pour eux. Leur dogmatisme, leur sérieux, leur se prendre au sérieux me fait peur. Je ne sais pas, mais quelque part, je préfère vraiment la nonchalance, ben, si on peut parler de nonchalance, d'Henri III. Je préfère éventuellement le changement d'idée d'Henri IV. Je crois que... Ben, je ne dis pas qu'il fallait tuer les protestants, loin de moi, tout ça. Mais en même temps, je trouve que les protestants, les Huguenots, avec leur sérieux, ils ont réveillé quelque chose de terrible qui peut-être était endormi dans l'âme des soi-disant catholiques. Certes, la papauté était quelque part dégénérée. Certes, la richesse, le sexe, une certaine vie déchaînée étaient contre toute bonne règle religieuse. Mais en même temps, ce n'est pas ça la Renaissance. Ce n'était pas ça, se libérer d'une espèce de cap qui avait gardé l'humanité, quoi qu'en disent les nouveaux historiens, l'humanité en Occident, pendant presque une millier d'années dans une condition terrible. Il suffirait de lire certains textes de Luther ou de Sébastien Münzer pour voir que pratiquement il n'y a aucune différence entre les pires inquisiteurs et le représentant du protestantisme. Cela veut dire que la différence entre protestants et catholiques était quelque part sans importance. C'était une lutte intestine, mais à l'intérieur d'une maladie extrême de la civilisation. Maladie ou cancer, appelez comme vous voulez, que la religion participait à garder, à faire fleurir. Regardez, 8 septembre 1572, Rome, église Saint-Louis des Français. Oremus, Dieu Tout-Puissant, qui résiste aux superbes et fait grâce aux humbles. Nous t'offrons les tributs de nos louanges les plus ferventes. Pour ceux qui ont égard à la foi de tes serviteurs, tu leur as accordé un triomphe éclatant sur les perfides adversaires du peuple catholique, et nous te supplions humblement de poursuivre dans ta miséricorde ce que tu as commencé dans ta fidélité pour la gloire de ton nom, qui est invoqué au milieu de nous. Au nom du Christ, exauce-nous. Exauce-nous, laisse-nous éventuellement tuer d'autres protestants. Mais ce Oremus-là aurait pu très bien être dans la bouche de n'importe quel huguenot. Suis-je en train de faire une attaque en règle contre la religion? Je dirais que non. Je dirais que non, parce que cette attaque, je pourrais très bien le faire contre un rationalisme extrême, contre un discours technicien, contre un relativisme absolu. Au fond, je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas dans la religion un absolu dont on n'a plus besoin, une transcendance dont on n'a plus besoin. Si on ne pourrait pas se replier sur une vie plus simple, sur une mise au centre du corps, s'il ne faudrait pas finalement accepter la mort de Dieu. Oh, je sais, il y a un retour de religion partout, pas seulement les musulmans, pas seulement les intégristes protestants, pas seulement les catholiques, il y a des sectes partout. On pensait d'avoir chassé la religion ou le religieux, ça ne se chasse pas, il est intégré dans notre culture, nous sommes dans la religion, dans le religieux. Et pourtant, il pourrait y avoir un mouvement dans lequel ce religieux-là reste quelque part, il reste comme expérience historique, mais dépassé. Dépassé comment? En nous rattachant à quoi? À quelle éthique, à quel idéal, à quel symbole? Je ne sais pas. Je veux vous lire un passage très souvent cité, mais peut-être pas très bien connu. Pour voir comment ce n'est pas parce que Dieu est mort que la vie sera meilleure. Ce n'est pas parce que on reprend à croire en Dieu que la vie sera meilleure. C'est que dans la difficulté quotidienne, dans la lutte quotidienne, dans la confrontation quotidienne, dans le dialogue quotidien, on peut peut-être arriver à une condition dans laquelle il n'y aura pas de Saint-Barthélemy. Et il n'y aura même pas besoin d'accommodement irraisonnable. Attention, ça n'a rien à voir avec les accommodements raisonnables dans lesquels j'y crois assez. C'est vraiment, on n'aurait pas besoin d'accommodement irraisonnable, parce que le problème, c'est que les accommodements sont presque toujours irraisonnables ou irraisonnés. Écoutez.
L'insensé. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu! Je cherche Dieu! » Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu? » dit l'un. « S'est-il égaré comme un enfant? » dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? » Ainsi, ils criaient et riaient tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu? » cria-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous sommes ses meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son mouvement? Loin de tous les soleils, ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ont enseveli Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine? Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Qui essuiera ce sang de nos mains? Quelle eau pourra jamais nous purifier?
Quelle solennité expiatoire, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action?
Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action? Sans doute. Peut-être. J'ai presque envie de devenir moi-même un petit peu nuancé, d'oublier les détails. J'ai devant moi un livre, Éthique, culture religieuse et dialogue, d'un ami de Georges Leroux. Un livre que je viens de lire, que j'aimerais presque signer. Je dis presque signer. Pourquoi? Parce que j'aimerais le signer pour le style, pour la structure, pour la culture, pour bien des idées. Mais il y a quelque chose qui m'empêcherait de le signer. C'est que je sens quelque part un fond catholique qui me dérange. J'ai été un bon catholique pendant des années, donc j'ai le flair pour cela, je le sens. Il est là, il a une présence dérangeante. Mais une fois que je dis ça, je n'aimerais pas qu'on prenne mes propos pour des propos à la Martineau. Que veux-je dire avec cela? Je veux dire que je suis conscient, comme dit Leroux, de l'importance de la religion, de l'importance de certains enseignements, par exemple de l'histoire de la religion à l'école. Mais j'aimerais, par exemple, qu'on enseigne l'histoire de la religion aussi via ces atrocités énormes, continuelles, et pas seulement l'Inquisition, et pas seulement les massacres de la Saint-Barthélemy. Toutes les religions sont pleines d'atrocités. Au fond, je me demande pourquoi parler des atrocités des nazis et pas parler des atrocités du catholicisme, des musulmans, des protestants. Pourquoi cette différence? Pourquoi le mal absolu est le nazisme? Comment trouver une place dans laquelle la raison devient une raison qui a perdu toutes les scories de la technique pour devenir une raison poétique, une raison nietzschéenne?